Vous êtes sur RTL.
RTL soir 18h49, Thomas Soto, c'est leur choix.
Oh ben là, je m'efface devant Catherine Boulay, devant Julia Molcou et devant Christian Ménanteau, puisque c'est leur choix de nous parler du monde. Tiens, pour commencer avec vous Catherine, vous nous emmenez en Russie après un été de manif, les musiciens ont pris le relais de la contestation contre le pouvoir de Poutine.
Oui, on pourrait appeler ça la rébellion par le rap, et elle est portée par une demi-douzaine de groupes extrêmement populaires en Russie. Noise, MC par exemple. Là, la chanson que vous entendez, elle s'appelle Leka, et c'est l'histoire d'un policier anti-émeute qui frappe quand on l'ordonne, un peu comme un chien de garde. Évidemment, c'est une attaque directe contre les forces de l'ordre. Et puis vous avez aussi Vasya Oblomov.
Oh Mother Russia.
Alors lui, il a fait un carton avec ce tube extrêmement ironique sur les prisons d'une ville qui s'appelle Magadan. Et puis, vous avez évidemment les Pussy Riot, que vous connaissez déjà, Face, IC3 Peak, Husky, tellement populaires avec des millions de vues sur les réseaux sociaux qu'en décembre dernier, Vladimir Poutine a dénoncé publiquement une musique qui, je cite, « dégrade la nation ».
Mais ils n'ont pas d'ennui parce qu'il n'aime pas beaucoup les opposants, Vladimir Poutine.
Alors, Husky, dont je vous parlais à l'instant, lui, il a vu plusieurs de ses concerts annulés. On n'a pas trop expliqué pourquoi. IC3 Peak, lui, il est passé par la case prison, là encore, sans trop d'explications. Mais ça n'a pas été plus loin que ça. En fait, la riposte, elle est venue d'un autre groupe de rap qui s'appelle Timothy, qui lui est pro-pouvoir. Et ce groupe-là, il a fait un clip qui s'appelle « Moscou », donc pour encenser les valeurs conservatrices de Moscou. Sauf que sa chanson à lui, eh bien, elle a fait un fiasco total, 1 400 000.
Pourquoi ? Parce qu'elle expliquait quoi ? Que c'était trop sympa de vivre à Moscou, que c'était une ville délicieuse ?
En réalité, parce qu'on ne pouvait pas faire de manifestations homosexuelle à Moscou. Donc vous voyez, c'était sur l'homosexualité, sur les LGBT. 1 400 000 pouces baissés sur Facebook. Tellement impopulaire cette chanson que les rappeurs ont préféré la cacher et la sortir complètement des réseaux sociaux.
Bah, du coup, on ne va pas l'écouter. Voilà. De l'autre côté, aux États-Unis, oui. on a Christian Ménanteau qui grimpe sur sa Harley Davidson ce soir. C'était donc vous.
Ça va pas très fort,
Charlie Davidson.
Non, ça va pas très fort, hein, parce que si Bébé et Gainsbourg n'avaient besoin de personne, Harley Davidson, l'entreprise elle-même, ce mythique constructeur, lui, il va avoir besoin d'un sacré coup de main, parce que d'abord, c'est plus un secret maintenant, ses ventes patinent. Mmh. Il semblerait que la clientèle prenant de l'âge, un peu plus de bedaine, ses grosses bécanes, ça soit un petit peu
difficile à manipuler,
oui. Et puis, il faut donc renouveler l'image, proposer un look, mais aussi proposer des modèles plus attractifs,
ils savent
plus
pas
légers.
Faire ça.
Plus contemporain. Pardon ?
Ils savent pas faire ça, renouveler.
Si, ils savent faire, mais ils s'y préparent même depuis plusieurs années. Mais apparemment, ils attaquent même le marché chinois, mais ils le font pas comme il faut. Parce que, au lieu d'avoir des machines qui assurent, eh ben, ces machines, elles démarrent pas.
Ah, ça, c'est un problème quand même. Qu'est-ce qui carbure de travers alors ?
Harley Davidson avait beaucoup misé sur la Live Wire. C'est un superbe bécane. Elle est électrique, donc tout le monde s'est dit. Ah. Elle est belle, elle est électrique.
Bah, il manque le bruit pour une Harley quand même, non ?
Oui, mais ça, vous mettez un petit truc et ça fait du bruit. Ça, c'est pas un problème. C'est un modèle à 30
000 euros. On l'appelle
Joe Lambrou. La Harley bricolée par Ménanteau. Voilà.
C'est un modèle à 30 000 euros pièce. Donc, et il n'a qu'un seul souci, c'est qu'il a du mal à se recharger. Ah. Et donc, alors, ça casse l'ambiance. Hein. Vous êtes avec Bébé,
pour faire
puis
rider,
vous arrivez en haut de la côte et vous lui demandez de pousser. Donc, ça le fait pas. Donc, ça le fait vraiment pas. Alors, c'est plus grave qu'on pourrait le penser, hein, parce que la fabrication du coup totale a été arrêtée. Ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Les ingénieurs sont sur le chantier. C'est pas terrible. Et alors, vous n'avez plus les ronflements, vous n'avez plus les vibrations, vous n'avez plus la fumée. Et si en plus, hein, vous êtes obligé de pousser, vous imaginez, ça pose problème.
Eh ben, Bébé, elle s'est barrée, elle a pris le tramway. Merci beaucoup, Christian. On va parler littérature avec vous, Julia Molcou. Mais qui est Michel Houellebecq ?
Eh bien, c'est justement la question à laquelle répond pour la seconde fois en 15 ans le journaliste Denis de Montpion. Alors, après la première publication d'une biographie non autorisée de Houellebecq en 2005, le journaliste avait des choses à ajouter sur l'écrivain qu'on décrit tour à tour comme fasciste, raciste, antisémite, islamophobe, mais aussi parfois visionnaire. J'en connais qu'il adore.
Qu'est-ce qu'on a ? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on apprend alors dans ce livre ?
Alors si vous êtes comme moi, novice, vous allez apprendre des tas de trucs. Par exemple, que Michel Houellebecq ne s'appelle pas Houellebecq, mais s'appelle Michel Thomas. Et que sous ses airs très négligés, eh bien, il y a quand même des petites coquetteries, parce qu'il n'arrête pas de se rajeunir de 2 ans. Non Michel, vous êtes bien né en 56, pas en 58. On apprend aussi que par nécessité, il sera un temps informaticien. Ça, par exemple, je ne le savais pas. Et qu'en fait, Michel ne devient Houellebecq qu'en 88, lorsque ses 5 premiers poèmes sont enfin publiés. On découvre que Houellebecq a un sens aigu des relations publiques, bien qu'il ne parle que de lui, et qu'il a eu un temps un petit goût très prononcé pour l'échangisme au Cap d'Agde, et loin de moi l'envie de juger. Et alors, dans cette version upgradée, qu'est-ce qu'on découvre aussi ? Eh bien que lorsqu'il reçoit le Goncourt en 2010 pour La Carte et le Territoire, Nicolas Sarkozy himself, alors président de la République, lui passe un coup de fil pour lui dire
« Dis-moi, ça va te rapporter combien ?»
Exactement. Magnifique prestation de Thomas Soto. Enfin, Denis de Montpion lève le voile sur la mystérieuse troisième épouse de Houellebecq, Lysis, qui en plus d'avoir fait de lui son sujet de mémoire, pas mal, répond au désir de son écrivain de mari en étant, je cite, une fille gentille, un peu maison, un peu sexe aussi. Voilà.
Ça s'appelle Houellebecq.
Il a vraiment tout dit, l'auteur, là ?
Eh ben non, il n'a pas tout dit, justement. Vous savez quoi ? Il y a deux choses qu'il n'a pas dites. La première chose qu'il n'a pas dite, c'est pourquoi les parents de Houellebecq ne l'ont pas élevé lui-même, eux-mêmes. Ça, il ne me l'a pas dit à moi non plus. Il est malin. En revanche, il m'a donné la seconde chose qu'il n'a pas dite dans ce livre.
Il y a une lettre que quelqu'un lui a adressée un jour parce qu'il avait été hébergé chez ces gens-là. Et quand il est reparti, il avait laissé la chambre où il avait dormi totalement sale dingue. Il y avait du dentifrice partout. Enfin, il avait brûlé les bois précieux dont les meubles étaient faits avec ses cigarettes qu'il avait laissé brûler dessus.
Non, ses cigarettes. Bon, en tout cas, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Mimi Cracra Houellebecq, c'est dans cette biographie.
Houellebecq, c'est un peu à charge.
C'est pas à charge. C'est vachement bien écrit. Il y a plein de choses.
Denis,
on apprend plein de trucs. C'est super.
Houellebecq.
C'est publié chez Buchet Chastel.